Imaginons un instant tenir entre nos mains un document qui a littéralement réécrit la notion même de droits humains. Un texte qui a pris les hiérarchies impériales les plus oppressives de son époque et qui les a juste pulvérisées.
C'est exactement le mot.
Sauf que, ironie de l'histoire, depuis plusieurs siècles, on s'acharne presque exclusivement à débattre pour savoir si ces calculs mathématiques et ces mesures chronologiques sont corrects.
C'est tellement vrai. On passe complètement à côté du sujet.
Ouais. On passe à côté de la plus grande révolution idéologique de l'Antiquité juste parce qu'on s'obstine à lire ce document comme s'il s'agissait d'un manuel de biologie moléculaire ou d'un rapport de géologie.
Et ça, en fait, c'est le piège de l'anachronisme. Lire un texte qui est vieux de plusieurs millénaires avec nos petites lunettes du 21e siècle, fasciné par notre propre rationalité scientifique, c'est la garantie absolue de faire un contresens majeur sur l'intention de l'auteur.
Et c'est pour ça qu'on est là. Le décryptage d'aujourd'hui s'attaque frontalement à ce fameux décalage. On plonge au cœur d'une conférence académique extrêmement pointue du chercheur Kenneth Matthews.
Tout à fait. Plus spécifiquement, sa deuxième session d'enseignement.
Voilà. Et ses notes, elles portent sur le récit de la création dans la Genèse, donc du tout premier verset jusqu'au chapitre 2.
Un texte incontournable, vraiment.
Mais avant d'aller plus loin, il faut définir clairement notre mission pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On met de côté les débats modernes.
Ah oui, c'est crucial de le préciser.
L'objectif ici, c'est pas de valider des croyances religieuses ou d'entrer dans une quelconque polémique personnelle, pas du tout.
Non, on est vraiment sur une démarche d'archéologie, en fait.
Exactement, une archéologie littéraire et théologique. On va suivre l'argumentation de notre chercheur pour comprendre comment ce texte était structuré, comment il s'opposait aux cultures voisines de l'époque et ce qui signifiait réellement pour ceux qui l'ont entendu pour la toute première fois.
Et pour comprendre l'impact d'un texte, du coup, il faut d'abord observer comment il est bâti, son architecture. Le docteur Matthews commence par démontrer que ce récit ne s'ouvre pas sur le chaos absolu, comme on pourrait s'y attendre dans les mythes antiques, mais par une déclaration d'intention hyper majestueuse.
Vas-y, dis-nous.
Le texte dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et ça, c'est ce qu'on appelle en littérature un mérisme.
Un mérisme, si je comprends bien le concept, c'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il a cherché de la cave au grenier.
C'est ça.
On ne s'intéresse pas particulièrement à la cave ou au grenier en soi. On utilise juste les deux extrêmes géographiques d'une maison pour signifier qu'absolument tout l'espace intermédiaire a été fouillé de fond en comble.
Exactement. En disant « les cieux et la terre », l'auteur pose l'univers entier sur la table. L'expression englobe la totalité de la matière existante. La scène est dressée.
D'accord.
Mais le verset suivant, le verset 2, introduit immédiatement le problème central que le reste du récit va devoir résoudre.
Ah, parce qu'il y a un problème dès le deuxième verset?
Eh oui. Cette terre primordiale, elle est décrite comme étant informe et vide. En hébreu, c'est la fameuse expression « tuhu bohu ».
Oh, le touhouhou! On utilise encore ça aujourd'hui pour dire que c'est le bazar.
C'est ça. Mais là, c'est décrit comme un espace submergé par les ténèbres et les eaux profondes.
Donc en gros, un environnement brutalement hostile à toute forme de vie.
Totalement inhabitable. C'est le vide absolu. Cependant, et c'est là que le chercheur fait remarquer un détail capital, l'esprit plane ou couve au-dessus de ces eaux.
L'idée de couver, ça donne une intention.
Exactement. Ce n'est donc pas un désordre cosmique qui échappe à tout contrôle. C'est un chantier brut en attente d'une organisation méticuleuse. Et cette organisation va prendre la forme d'une structure géométrique fascinante, en écoute bien, en 6+1.
6+1. Et c'est là que la symétrie de ce texte devient vertigineuse quand on l'observe bien. Parce que le texte, il est construit pour régler le problème du verset 2, le côté informe, en deux étapes distinctes.
C'est ça, la séparation et le remplissage.
Voilà, les trois premiers jours s'attaquent au côté informe. Ils ne créent pas de nouvelles matières à proprement parler, ils instaurent des séparations pour créer des espaces viables.
Tout à fait.
Donc le jour 1, c'est par la lumière des ténèbres. Le jour 2, c'est par l'atmosphère des eaux tumultueuses en bas. Et le jour 3 fait émerger la terre sèche hors des mers.
Et ces séparations-là, elles posent les fondations et les limites de l'univers. Le problème du manque de forme, le Tao, il est réglé.
D'accord.
Sauf que, et c'est là qu'on passe à la deuxième étape, ces espaces immenses, bien qu'ils soient structurés maintenant, ils sont encore dramatiquement stériles. Ils répondent à l'aspect informe, mais le monde reste vide, le beau vide.
Ah ouais. Le récipient est là, mais il n'y a rien dedans.
Exactement. Le texte réclame maintenant d'être rempli. Et ça, c'est la fonction mathématique des jours 4, 5 et 6.
Mais c'est... Franchement, c'est littéralement l'équivalent de la construction d'une maison, en fait.
Oui, l'analogie immobilière fonctionne très bien.
Bah ouais, si on y pense, les jours 1, 2 et 3, ce sont les ouvriers du gros œuvre.
Mmh.
Ils posent la dalle, ils montent les murs porteurs, ils séparent le salon de la cuisine, installent la charpente. Donc l'architecture est debout, les espaces sont délimités, mais ben, on ne peut pas y vivre. La maison est complètement nue.
C'est inhabitable.
Alors, les jours 4, 5 et 6, c'est l'aménagement de ces espaces. Le jour 4, on installe les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, pour éclairer et habiter le jour 1.
Voilà, ça remplit la case de la lumière.
Ensuite, jour 5, on amène les oiseaux et les créatures marines pour remplir l'atmosphère et les océans qui ont été créés au jour 2.
On meuble l'espace.
Et finalement, le sixième jour, la faune et l'humanité en ménagent sur la terre ferme qui avait été posée au jour 3. L'emboîtement est juste parfait.
Et cette comparaison avec la maison, elle illustre parfaitement l'intention de l'auteur. Cette architecture, elle démontre à un auditoire antique qu'il ne lit pas ou n'écoute pas un assemblage chaotique de légendes transmises au coin du feu.
Pas du tout.
Non, non, c'est une composition littéraire d'une rigueur absolue. D'ailleurs, un élément philosophique majeur est soulevé par le chercheur concernant le troisième jour.
Hein ? Lequel ?
La Terre n'est pas qu'un simple décor passif.
Mmh.
L'ordre divin dit que la Terre produise la végétation. La matière qui était à l'origine un désert aquatique stérile reçoit la capacité active de générer la vie. C'est une délégation de pouvoir en quelque sorte.
Ce qui prouve que la nature dans ce texte, c'est pas une entité divine en soi, mais plutôt un agent obéissant.
C'est exactement ça. Elle répond à une voix.
Mais parce qu'il y a un grand mais. Si on s'arrête sur cette symétrie si parfaite, on percute forcément le fameux éléphant dans la pièce.
Ah, la grande question scientifique ?
Et oui, la question du temps. Le rythme de toute cette construction immobilière cosmique, il est scandé par le mot hébreu « yom », traduit par « jour ».
Oui, le fameux débat des 24 heures.
Voilà. Aujourd'hui, avec la géologie qui nous parle d'une Terre vieille de plusieurs milliards d'années, on a souvent l'impression que la remise en question du jour littéral, le jour de 24 heures, c'est juste une panique moderne face aux découvertes scientifiques. Genre, on essaye de sauver les meubles.
Et c'est là que l'analyse de Matthus déconstruit totalement cette idée reçue.
Vraiment ?
Oui, la flexibilité de l'interprétation du mot « yom », elle précède largement l'ère de la géologie moderne ou l'invention du télescope spatial Hubble.
Ah ouais ?
Le chercheur argumente solidement en faveur d'une approche figurative, non pas pour sauver les apparences face à la science, mais parce que le texte antique lui-même dresse des barrières insurmontables contre une lecture purement chronologique.
Des barrières dans le texte lui-même ?
Absolument. Regarde la création du soleil, par exemple.
Ah, c'est vrai. La preuve la plus éclatante. Le texte martèle la formule « il y eut un soir, il y eut un matin » pour rythmer les jours 1, 2 et 3. Sauf que bah, le soleil et la lune ne sont accrochés dans le ciel qu'au quatrième jour.
Et on est bien d'accord que l'auteur de la Genèse y regardait le même ciel que nous.
Bah oui, il n'était pas bête. Hein.
Exactement. Il savait intimement que l'alternance du matin et du soir dépendait de la course du soleil. S'il décide de structurer la Genèse de l'univers en plaçant la mesure du temps trois étapes avant l'outil qui permet de la mesurer, c'est bien que cette formule d'introduction et de conclusion, bah, c'est pas un chronomètre.
C'est clair.
C'est un dispositif rhétorique, un cadre poétique utilisé pour segmenter majestueusement la création.
D'ailleurs, le chercheur utilise une expression pour ça. Il parle de langage phénoménologique.
C'est ça.
C'est un terme un peu nourrir, un peu académique, mais le concept derrière est génialement simple. C'est en fait l'équivalent de notre bulletin météo à la télé.
Oh, j'aime beaucoup cet exemple.
Bah oui, quand le présentateur météo nous regarde dans les yeux pour annoncer que, je sais pas, le soleil se lèvera demain à 7 heures, techniquement parlant, il a tort.
Totalement tort.
C'est une erreur d'astrophysique monumentale, puisque c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et pas l'inverse.
Bien sûr.
Mais il n'y a aucun téléspectateur qui appelle la chaîne pour exiger des sanctions contre ce présentateur. On accepte tous, de manière hyper intuitive, le langage de l'apparence.
Et le texte biblique emploie exactement cette posture-là. C'est la description de l'univers tel qu'il apparaîtrait à un observateur situé sur la terre ferme. Et d'ailleurs, le traitement du septième jour vient vraiment verrouiller cette interprétation non littérale.
Ah oui, le fameux jour de repos.
Ce jour de repos divin ne se termine pas par la ritournelle « il y eut un soir et un matin, ce fut le septième jour ». La formule s'arrête net. Il n'y a pas de fin.
Ce qui implique du coup que ce septième jour, c'est pas juste une tranche de 24 heures révolue qu'on coche sur un calendrier. C'est plutôt une réalité continue. Un état dans lequel l'univers vient d'entrer.
C'est une invitation ouverte qui se prolonge dans le temps.
D'accord.
Cependant, et c'est important de le noter, adopter cette lecture poétique ou figurative, ça soulève inévitablement une réflexion beaucoup plus critique.
Ben oui, totalement. Parce que si l'ossature temporelle est rhétorique, et si l'espace est une sorte d'analogie architecturale, la conclusion logique, pour beaucoup, ça serait de dire « Bon ben d'accord, l'auteur a simplement écrit une belle fable. »
Un mythe.
Un conte philosophique merveilleux qui flotte au-dessus des réalités terrestres, mais sans aucune prétention historique.
Et c'est là que le docteur Mathieuze répond catégoriquement par la négative. Et il se base pour ça sur le vocabulaire très spécifique du livre de la Genèse. Il met en lumière l'utilisation d'un mot charnière, le mot « tolédote ».
Tolédote, ça veut dire quoi exactement ?
Ça se traduit généralement par « voici les générations d'eux » ou « voici l'histoire d'eux ». Ce marqueur littéraire, il apparaît à 11 reprises dans la suite du livre et il sert littéralement de ciment.
Ok.
Il lit ce grand prologue cosmique poétique des chapitres 1 et 2 directement aux généalogies historiques des patriarches qui vont suivre.
Ah, donc pour l'auteur de l'Antiquité, il n'y a pas de rupture ou de muraille entre le mythe de la création et la naissance des nations et des familles ?
Non, aucune.
Il ancre la poésie céleste de ses débuts dans le fleuve très concret de l'histoire humaine. Donc l'outil de communication est métaphorique, oui, mais l'événement décrit est perçu comme factuel et fondateur.
Exactement. L'intention est profondément historique, même si le médium, lui, il est très stylisé. Et cette fondation historique, elle trouve son aboutissement magistral au sixième jour.
Le point culminant.
Tout l'édifice qui vient d'être structuré, délimité et meublé, pour reprendre ton analogie, ben, il prépare l'arrivée de son habitant central, l'humanité. Le texte opère un changement de registre spectaculaire à ce moment-là.
C'est-à-dire ?
Jusqu'à présent, les créatures, comme les poissons et les oiseaux, recevaient une bénédiction unilatérale, d'en haut, une sorte de décret. Mais avec l'arrivée de l'être humain, Dieu s'arrête. Et il s'adresse directement à sa créature. Une communication interpersonnelle démarre vraiment.
Et le récit utilise le terme hébreu « Adam », non pas comme le prénom d'un individu isolé avec sa carte d'identité, mais bien comme un terme générique pour désigner l'humanité tout entière, englobant sans aucune ambiguïté le mâle et la femelle.
Tout à fait. L'humanité dans son ensemble.
Et l'accent est mis sur un point très précis. Ils sont créés à, je cite, « à l'image de Dieu ».
Et le chercheur démontre que cette idée n'est pas juste glissée au hasard dans la phrase. Au verset 27, la poésie forme ce qu'on appelle un chiasme, une structure croisée.
Un chiasme ? Ça donne quoi en pratique ici ?
Ça donne une structure en A, B, B, A.
Dieu créa l'humanité.
À sa propre image, à l'image de Dieu.
Il le créa.
C'est puissant.
Parce que, quand on lit un texte imprimé moderne, l'auteur utilise du texte en gras ou un coup de surligneur jaune fluo pour attirer notre œil sur l'idée principale.
C'est ça, on a des outils visuels.
Mais dans la culture antique, qui était profondément orale, le surligneur visuel n'existe pas. L'auditeur, il entend ce rythme chiasmique se refermer sur lui-même avec le mot « image » qui est martelé et enchâssé en plein centre de la phrase.
C'est brillant.
C'est un zoom auditif ultra puissant qui dicte à la foule « Attention, écoutez bien, ceci est l'idée révolutionnaire du texte ».
Et pour en mesurer la force de frappe de cette idée révolutionnaire, il faut absolument comprendre le climat géopolitique de l'époque.
Le contexte, toujours le contexte. Voilà, dans les grands empires voisins, en Mésopotamie ou en Égypte antique, le concept de porter l'image des dieux est déjà très répandu.
Ah, ce n'est pas une invention de la Genèse.
Non, mais... Et c'est un grand mais, il est exclusif au sommet de la hiérarchie. En Égypte, seul le pharaon est considéré comme l'incarnation vivante du dieu Horus, par exemple.
D'accord, donc c'est hyper restreint.
Dans d'autres cultures, les rois sont les seuls représentants de la divinité sur Terre.
Pendant que le reste de la population, donc l'immense majorité des hommes et des femmes, n'est conçu que pour être la main-d'œuvre sacrifiable de ces puissants.
Exactement, de la chair à canon ou des bâtisseurs d'esclaves.
Et donc, le récit de la Genèse s'empare de ce concept impérialiste qui était incroyablement élitiste et il le brutalise, il le démocratise totalement. Il proclame que chaque être humain, le paysan, la femme, l'enfant, détient cette royauté inhérente, cette noblesse déléguée sur la création.
C'est une révolution !
Mais c'est un renversement social absolument terrifiant pour les puissances de l'Antiquité si on y pense.
Et c'est là que le chercheur souligne que cette conception redéfinit la définition même de ce qu'est une personne. Le texte distingue la biologie, c'est-à-dire notre nature animale, qu'on partage avec les autres créatures terrestres, de notre identité profonde, la personne.
Mmh.
Nous sommes des êtres biologiques, certes, mais l'image de Dieu nous confère un statut inviolable de représentant. Et l'exemple clinique qu'il utilise pour étayer cela, il est d'une profondeur rare. C'est le cas des maladies dégénératives.
Oui, l'exemple de la démence ou les déficiences cognitives sévères, c'est vrai que nos sociétés ultramodernes, on a souvent tendance à évaluer l'humain à travers le prisme de son utilité, de sa productivité économique ou de son intelligence mesurable par des tests.
Le fameux QI.
Voilà. Et selon ces critères un peu glaçants, un individu qui perdrait ses facultés mentales perdrait peu à peu son humanité.
C'est la pente glissante de l'utilitarisme. Mais l'analyse de ce texte détruit cette logique. Le statut d'image de Dieu ne repose sur aucune capacité physique ou cognitive. Il repose exclusivement sur la relation établie par le Créateur avec l'humanité.
C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous.
Exactement. Même lorsqu'un individu perd totalement sa capacité à exprimer son intelligence humaine, son identité royale, son statut de représentant demeure absolu. La dignité est totalement indépendante de la fonction ou de l'utilité.
C'est un rappel à l'ordre vertigineux. D'ailleurs, en parlant de représentants, j'ai trouvé vraiment lumineuse l'analogie historique des stèles dont parle le chercheur.
Ah oui, les stèles royales.
Dans ces cultures antiques, quand un empereur conquérait de vastes territoires qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres, il ne pouvait physiquement pas régner partout en même temps. Il n'avait pas le don d'ubiquité.
Non, bien sûr.
Donc la solution politique, ça consistait à sculpter de grands piliers de pierre, des stèles, à sa propre effigie, et à les ériger au cœur des terres conquises.
La stèle affirmait de manière visible et permanente « Ce territoire appartient à ce roi et l'ordre de ce roi s'applique ici. C'est une marque de propriété. »
Et dans cette architecture littéraire biblique, l'être humain n'est rien d'autre que la stèle vivante du Créateur, placée au centre du cosmos, non pas pour le détruire par tyrannie, mais pour refléter physiquement la nature paisible et ordonnée de la souveraineté divine.
Et ce qui est fascinant, c'est que ça nous amène à réaliser que la Genèse, sous son apparence de récit un peu apaisé des origines, mais c'est en réalité un tract polémique d'une agressivité rare.
Ah oui, un tract polémique.
C'est une entreprise de démolition systématique des visions du monde du Proche-Orient ancien.
Ah, je vois.
Si on s'immerge dans les mythologies voisines, l'ampleur du contraste, elle saute aux yeux. Prenons le grand récit babylonien de la création, l'Unuma Elish.
Je connais deux noms, mais rafraîchis-nous la mémoire.
Dans cette littérature, la création du cosmos, c'est le produit d'une boucherie monumentale. Le dieu de l'ordre, Marduk, doit affronter Tiamat. Tiamat, c'est une divinité marine, monstrueuse, qui incarne les forces du chaos.
D'accord, donc c'est un combat à mort.
C'est une guerre épique et sanglante. Il doit l'assassiner, la démembrer, et c'est à partir des morceaux de son cadavre qu'il fabrique les cieux et la terre.
Charmant. Et pour couronner le tout, si je me souviens bien, l'humanité dans ce mythe babylonien, elle est créée à partir du sang d'un autre dieu, rebelle, qui a été exécuté.
C'est ça, le dieu Kingu.
Et pourquoi les humains sont-ils créés au final ? Uniquement pour devenir les esclaves des dieux, pour faire le travail pénible et agricole que les dieux refusent de faire ?
Voilà, on est des domestiques cosmiques.
Tout est sanglant, douloureux, bruyant. Et face à ce drame cosmique digne d'une superproduction hollywoodienne moderne, la Genèse est d'un calme, mais d'un calme qui confine presque au mépris pour les autres mythes.
C'est le contraste parfait.
Le chaos des eaux profondes, le fameux tout oubouhou du verset 2, c'est pas un monstre à abattre. Dieu ne livre aucune bataille, il n'y a pas d'épée cosmique, il n'y a pas la moindre goutte de sueur. Il articule simplement des mots, que la lumière soit, et paf, l'univers entier s'aligne instantanément sur sa voie.
Et cette sérénité, en fait, c'est la démonstration d'une souveraineté absolue qui n'a pas du tout besoin de justifier son autorité par la violence. Pas de drame, pas de guerre.
Impressionnant.
D'ailleurs, l'analyse du docteur Matthews pointe un autre rejet monumental, un véritable affront culturel pour l'époque. C'est l'absence totale de dimension sexuelle.
Ah oui, très juste.
Dans toutes les religions environnantes, qu'il s'agisse de Canaan ou de l'Égypte, la création est fondamentalement liée à des procréations mythologiques entre des dieux et des déesses.
Des arbres généalogiques divins interminables.
Exactement. Le monde est une émanation physique, littéralement sexuelle, de l'activité divine.
Et la Genèse pulvérise cette notion-là aussi. Il n'y a pas de divinité féminine aux côtés du Créateur. Et ce n'est pas par misogynie, mais bien parce que Dieu transcende complètement la biologie. L'univers n'est pas engendré par lui. Il est fabriqué, appelé à l'existence, en totale extériorité.
Et ça amène le chercheur à faire un dernier pont fascinant avec la philosophie gréco-romaine plus tardive.
Platon, Aristote.
Exactement. Lorsqu'on étudie les penseurs comme Aristote, le Dieu parfait, c'est le moteur immobile. C'est une pure pensée métaphysique si parfaite qu'elle est totalement poupée des réalités inférieures, donc de la matière. La philosophie définit cela comme une relation « je-cela », totalement impersonnelle, distante, froide, presque mathématique.
Et la Genèse, elle fait s'entrechoquer ces deux univers philosophiques, parce que d'un côté, on a ce dieu cosmique qui déploie l'architecture des cieux avec une majesté froide et absolue, en parlant.
Oui.
Mais d'un autre côté, une fois cet univers construit, il s'abaisse au niveau du sol, dans la poussière, pour adresser la parole personnellement à sa créature. C'est une relation hyper intime, une relation « je-tu » qui fusionne d'un coup la transcendance totale et l'immanence la plus absolue.
Et c'est ce qui donne absolument tout son sens à la présence des deux premiers chapitres. Souvent, les gens les opposent. Mais dans cette analyse, le chapitre 1 offre la grande vue, macroscopique, panoramique.
L'organisation spatio-temporelle, chronologique, l'objectif grand angle.
Exactement. Puis le chapitre 2 amorce un changement de focal, cinématographique, comme un zoom. Il inverse délibérément les termes, en parlant de « la terre et les cieux », pour zoomer thématiquement sur cette proximité radicale entre l'humanité, la terre qu'elle doit cultiver, et le Créateur. Les deux chapitres s'emboîtent, ils ne s'opposent pas.
Et d'ailleurs, toute cette colossale machinerie narrative, depuis le tout premier rayon de lumière jusqu'au souffle de vie de l'humanité, elle ne pointe que vers un seul objectif, le septième jour. Le fameux sabbat.
Le sommet de l'édifice.
D'après le chercheur, l'architecture littéraire aboutit à ce moment sanctifié pour offrir une invitation perpétuelle à entrer dans un état de repos, de plénitude, de célébration de cet ordre achevé.
En fait, le récit est une trajectoire. L'univers était pris dans son état de tohu-bahu, un chaos stérile et obscur, et a été organisé, séparé, limité, puis rempli d'une vie florissante, pour aboutir finalement à cet état de paix structurée.
Et c'est vraiment là que cette exploration prend une dimension presque troublante pour nous aujourd'hui.
Comment ça ?
En assemblant toutes ces pièces de l'Antiquité, le passage du désordre originel aux séparations qui créent l'ordre, puis à ce repos final, j'ai été frappé par le miroir inversé de notre époque contemporaine.
Un miroir inversé, c'est-à-dire une régression.
Mais exactement. Si le mouvement naturel de ce texte, c'est d'échapper au chaos pour atteindre le repos structuré, j'ai l'impression que la société moderne s'acharne, avec une détermination presque suicidaire, à faire le chemin inverse, en fait.
Ah, je vois où tu veux en venir.
On est submergé en permanence par un flux d'informations non triées, on est assaillé de notifications, noyé dans un bruit de fond visuel et mental qui ne s'arrête jamais, on milite presque pour effacer toutes les limites temporelles et spatiales, la frontière entre le travail et le repos n'existe plus, le jour et la nuit se confondent avec les écrans, le bureau et la maison se mélangent avec le télétravail, tout devient informe.
Ce qui revient littéralement à détruire les fameuses séparations des premiers jours de la création.
C'est ça.
Au lieu de conserver ces limites qui rendaient l'espace habitable et serein, nous déconstruisons l'architecture nous-mêmes.
On scrolle, on consomme, on s'agite et on replonge volontairement notre esprit dans le tohu-bohu d'origine. Je trouve ça terrifiant quand on y pense. On a transformé notre culture en un brouillard informe et vide de sens, et on s'étonne ensuite d'être épuisé, de faire des burn-out, d'être totalement incapable d'accéder à ce fameux repos intellectuel et spirituel vers lequel le texte antique essayait pourtant de nous guider.
C'est un diagnostic chirurgical, vraiment. L'hypermodernité agitée recrée de toutes pièces le chaos primordial dont l'humanité antique célébrait justement la maîtrise.
Et c'est sur ce vertige philosophique qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On s'était promis au début de ne pas aborder ce texte multimillénaire comme une notice de montage ou un document scientifique, mais plutôt de chausser les lunettes de l'Antiquité.
Et c'est réussi, je crois.
Et ironiquement, c'est en regardant ce monde ancien de si près qu'on réalise qu'il pose l'un des diagnostics les plus critiques sur notre propre époque contemporaine. Un immense merci de m'avoir accompagné dans ce décryptage de l'analyse du docteur Matthews.
Merci pour cet échange, c'était passionnant.
Pour tous ceux qui nous écoutent, gardez cette soif d'apprendre, continuez à explorer les sources de notre histoire avec curiosité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. À la prochaine !